Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostanis. Rediffusion du 4 septembre 2016. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui consacrée à une période capitale de l'histoire de l'Église de Russie et intitulée « Les tsars et l'Église ». Les émissions sont réalisées à l'occasion de la parution d'un livre dont le titre est « Histoire de la Russie » d'Ivan le Terrible à Nicolas II, 1547-1917. Cet ouvrage est paru chez Talendier et nous avons avec nous son auteur, Pierre Gonod, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Pierre Gonod, de ce beau volume d'histoire, nous allons, pour ces émissions, nous concentrer sur les informations concernant la politique ecclésiastique des tsars. Mais auparavant, quelques mots sur la conception de cet ouvrage qui présente l'histoire de la Russie à travers une série de biographies des tsars.
Oui, alors c'est un mode de présentation assez classique, l'histoire par règne, mais en même temps, il est vrai que chaque tsar, depuis le premier, Ivan le Terrible, imprime une marque très personnelle à la monarchie et à son pays d'ailleurs. Et effectivement, on doit suivre cette chronologie sans pour autant ignorer évidemment les faits autres, sociaux, économiques et les relations internationales, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons commencer par le début. Le premier des tsars, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Ivan, surnommé le Terrible. C'est un personnage que vous connaissez très bien. Je rappelle que vous avez fait une monographie que nous avions présentée ici même il y a 2 ans à peu près, au moment de sa parution. Il faut peut-être, pour introduire, expliquer quelle est la situation de l'Église de Russie à ce moment-là et quelle sera l'importance du sacre d'un tsar maintenant.
Alors effectivement, c'est une situation assez unique. Donc l'Empire byzantin est tombé en 1453, donc on arrive presque à un siècle depuis la chute de cet empire, et l'Église orthodoxe grecque est sous la domination du sultan maintenant. L'Église orthodoxe russe a été créée par les Grecs et comme une province de ce patriarcat de Constantinople. Mais depuis la chute de l'Empire byzantin, elle est en fait autocéphale. Elle s'est détachée sans rompre tout à fait les relations. Donc à la tête, il y a un métropolite, la métropole de Russie, mais élu par ses pairs, par les évêques russes, et qui a une assez grande autonomie. Et il faut dire aussi que la Russie est donc le seul pays orthodoxe qui a un souverain orthodoxe et qui est donc indépendant, si on peut dire, dans les termes actuels, qui n'est pas soumis à, au sultan ou à un autre chef non orthodoxe.
Et quelle sera l'importance du changement de régime? Parce qu'évidemment, le prince de Moscou va maintenant devenir tsar de toutes les Russies.
Voilà, donc les Russes ont été des bons élèves, on va dire, des Byzantins. Ils ont appris l'orthodoxie, ils ont compris petit à petit ce qu'était la nature du pouvoir impérial, et à la chute de Constantinople, ils se sont pas précipités pour le revendiquer. Mais petit à petit, la montée en puissance du souverain moscovite, qui a rassemblé les terres russes, en particulier le père et le grand-père d'Ivan le Terrible, fait qu'on a un État qui, évidemment, est en position de revendiquer la succession impériale. Et là, ça va s'accomplir sous le règne d'Ivan le Terrible, au moment où il accède à la majorité, en fait, à 17 ans, parce qu'il est souverain en titre depuis très longtemps, depuis l'âge de 3 ans, étant donné que son père est mort très tôt. Et bien là, il va se faire couronner empereur, tsar, et c'est le métropolite de l'Église russe qui assume ce couronnement, qui l'organise sur le modèle byzantin.
Quelle a été la tactique, si je puis dire, d'Ivan pour arriver à obtenir ça? Parce qu'il a dû avoir des réactions de la part des boyards, enfin des autres princes.
Alors, la Russie a été donc centralisée par son père et son grand-père. Donc, il n'y a plus d'autres princes capables de lui opposer une résistance militaire, on va dire. Il y a encore des princes qui sont au service de la monarchie moscovite. Il y a ces fameux boyards aussi, qui sont des conseillers, mais au fond, il y a une assez grande unanimité. On est d'accord pour assumer l'héritage, et en même temps, évidemment, il est clair que ça change la nature du pouvoir, qui devient vraiment autocratique. C'est un terme qui est déjà employé et qui va être encore plus, va devenir le maître mot de la monarchie russe, l'autocratie, c'est-à-dire le pouvoir détenu par un seul, qui est la source unique de tout le pouvoir. Le pouvoir vient de lui et de Dieu, oui, bien entendu, mais à part ça, il ne reconnaît aucun autre principe ou qu'une autre institution qui pourrait le lui disputer.
Alors, la personnalité d'Ivan le Terrible, évidemment, a inspiré plusieurs artistes, dont le célèbre cinéaste Eisenstein, qui en 1944 a réalisé un film intitulé Ivan le Terrible. Et nous allons maintenant entendre un extrait de ce film, c'est Le Couronnement. avec cette expression propre à Eisenstein, évidemment, qui est très forte. C'est le moment du couronnement où le métropolite de Moscou remet les insignes impériales au nouveau souverain au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Extrait donc du film d'Eisenstein, Ivan le Terrible, extrait tiré du moment du couronnement. Le métropolite de Moscou couronne le nouvel empereur. Quelques mots, Pierre Gonod, sur la manière dont ça se passe. Est-ce que ça correspond plus ou moins véritablement à l'histoire? Et qu'est-ce qu'il y a de différent entre ça et ce qui se passait jusqu'à présent dans l'histoire de Russie?
Alors, jusqu'à présent, il n'y avait pas de couronnement dans l'histoire de Russie. Il y avait simplement l'accession du successeur à la mort du prédécesseur. Et au moment de sa majorité, s'il était mineur, effectivement, on signalait, disons, qu'il avait en main le pouvoir. Là, on organise un couronnement calqué totalement sur le rite byzantin, avec la remise des régalias, donc de ces insignes royaux, que pour la circonstance, on a plus ou moins inventé ou retrouvé, entre guillemets, puisque d'après des légendes qu'on entretient, il y aurait déjà eu un couronnement à l'époque de Kiev, au temps de Vladimir Monomaque, parent de l'empereur Constantin Monomaque, et ça ne serait qu'un renouvellement du couronnement ancien, mais évidemment c'est un mythe de la monarchie moscovite qui permet aussi de lier tout ensemble Constantinople, Kiev et Moscou. Et là, donc, on remet ces insignes royaux, donc le sceptre, l'orbe, et puis ensuite on le couronne avec la couronne dite Chapka de Monomaque en l'honneur de cet ancêtre, Vladimir Monomaque. Et en fait, cette couronne n'est pas la couronne de Monomaque, mais un objet d'orfèvrerie mongole, d'ailleurs, comme les experts ont pu l'établir, qui daterait de plus tard du 14e, 15e siècle.
Très bien, merci beaucoup. Nous sommes donc dans une nouvelle ère dans l'histoire de Russie. Nous avons donc maintenant un pouvoir séculier autocratique et une église métropolitaine encore. Voilà. Cela va évoluer parce qu'il va avoir un patriarche.
Alors l'idéal, évidemment, c'est de reconstituer le modèle byzantin, ce qu'on appelle la symphonie des pouvoirs, avoir à la tête un monarque, d'un côté, pour le pouvoir temporel, et de l'autre côté, un patriarche, pour le pouvoir spirituel, qui sont censés dialoguer en harmonie. Alors ensuite, le rapport entre les deux est plus ou moins évident. L'empereur a toujours eu des prérogatives importantes. Il siège dans les conciles, par exemple, depuis l'époque byzantine. Mais évidemment, le patriarche est le, par excellence, le chef de l'Église et cette symphonie, cette double situation va se faire uniquement sous le règne de Fiodor, le fils d'Ivan le Terrible, en 1589 et avec, à la faveur de la visite d'un patriarche de Constantinople qu'on a un peu poussé quand même à accorder cette création du patriarcat russe. Donc jusqu'à présent, il y avait quatre patriarches de l'Église grecque, donc traditionnelle évidemment, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie. Et là, il va y en avoir un cinquième, ce qui permet aussi de remplacer le pape de Rome, qui était traditionnellement le cinquième dans le système dit de la pentarchie ou des cinq grands hiérarques. Et en même temps, ce qui reconnaît l'importance de cette Église de Russie, qui est la plus grande en fait, géographiquement déjà, et petit à petit démographiquement aussi. Donc, cette création du patriarcat de Russie est un grand succès diplomatique pour la Russie. Et en même temps, comme on le verra, ça sera de courte durée, puisque dès 1700, donc Pierre le Grand jugera que finalement ce patriarche le dérange et s'en débarrassera.
Excusez-moi, comme vous dites, ce moment est capital dans l'histoire de l'Église de Russie, évidemment la création d'un patriarcat. Et on nous dit, enfin l'histoire nous dit que Fiodor était parmi les enfants d'Ivan le plus faible d'esprit. Alors comment cela se fait-il qu'un empereur, pas si fort quand même, ait eu une idée aussi géniale là?
C'est-à-dire que Fiodor est le contre-type, on pourrait dire, d'Ivan le Terrible. Il est aussi doux que son père est violent et brutal. Et ça incarne une sorte d'équilibre entre les deux, ces deux faces de la même pièce. Et puis surtout, il y a quand même derrière, en coulisses, Boris Godounov, qui est le beau-frère de Fiodor et qui, évidemment, est déjà l'homme qui dirige réellement le pays et qui prendra la succession de Fiodor.
On va maintenant continuer donc avec ce pouvoir maintenant, si je puis dire, à deux têtes, puisqu'il y a d'un côté le tsar et de l'autre le patriarche. Comment cela évolue-t-il? Quelle est la manière dont les deux personnages s'entendent et qui a le vrai pouvoir?
Alors le vrai pouvoir, c'est quand même le souverain, le tsar, sauf dans un cas, mais un cas très particulier, au tout début de la monarchie des Romanov, puisque le premier tsar des Romanov, Michel, n'est autre que le fils du patriarche de l'époque, Philarète. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Philarète était le chef du clan des Romanov, Fiodor Nikititch, et Boris Godounov a voulu s'en débarrasser en le forçant à devenir moine. Alors il a cru que il était tranquille, mais Philarète avait évidemment une forte personnalité. Et dans sa carrière de moine, il a réussi à s'élever et finalement, quand son fils a été élu tsar, après le temps des troubles, après des périodes extrêmement difficiles, eh bien, lui est devenu tout naturellement patriarche et en fait, ils ont dirigé à deux l'État russe avec, on pourrait dire, une prépondérance pour le père et patriarche. Mais évidemment, la mort de Philarète en 1633, ça va changer.
Est-ce que pendant ce régime-là, l'Église est quand même, pour ses affaires internes, indépendante du pouvoir séculier, ou le maître quand même de la situation en Russie, qui est le tsar, intervient directement également pour des affaires ecclésiastiques.
Alors le tsar a à plusieurs reprises démis certains ecclésiastiques de leurs fonctions, des évêques en particulier. Et d'autre part, la question aussi qui peut faire polémique, c'est les biens d'église. Les monastères russes se sont considérablement enrichis entre le XIVe et le XVIe siècle, sont devenus des gros propriétaires, ce qu'ils n'étaient pas auparavant. Et donc, évidemment, cette richesse ecclésiastique suscite des polémiques et de temps en temps, le tsar est tenté de confisquer. Alors, il ne va pas le faire avant le XVIIIe siècle, mais il y a des tensions sur ce point de vue-là. À l'inverse, des patriarches forts, en particulier le patriarche Nikon, dont on pourra préciser un petit peu l'action, vont pousser le tsar dans certains domaines, en particulier quand Nikon veut réformer le rite et réformer la discipline ecclésiastique, donc au milieu du XVIIe siècle, dans les années 1652-1658.
Alors, le nom de Nikon est lié aussi au mouvement des vieux croyants et de cette époque très troublée. Si vous voulez, on va dire quelques mots et puis le changement que ça a généré concernant les affaires ecclésiastiques en Russie.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Église russe avait jusque-là peu souffert d'hérésies et de mouvements contestataires internes. Donc, elle avait une certaine unité, même une unité certaine. Et puis, Nikon va vouloir, dans un dessein de purisme, de scrupule, vérifier que toutes les traductions, toutes les formules dans les missels et dans les autres livres qu'on utilise pour célébrer sont parfaitement conformes au rite grec et à la lettre même des textes grecs. Et là, on s'aperçoit que dans la langue qu'on utilise dans l'Église russe, qui est le slavon, une langue slave, qui n'est pas tout à fait le russe, hein, qui est une langue un peu plus archaïque, ben, il y a quelques fautes, il y a quelques éléments ambigus, et Nikon ordonne de tout corriger conformément au grec. Or là, chez un certain nombre d'ecclésiastiques, ça suscite une réaction de rejet en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on devrait abandonner des formules consacrées depuis des siècles que nos saints nationaux ont utilisées, alors que ces Grecs, eux, qui ont été vaincus et asservis par les Turcs, est-ce qu'ils sont vraiment aussi orthodoxes qu'on le dit ?» Donc il y a une sorte de réaction, on pourrait dire, d'orgueil ancestral et en même temps de méfiance. D'autant plus que, évidemment, il faut évoquer peut-être la Troisième Rome dans ce contexte. Moscou et la Troisième Rome, c'est une formule qui a été inventée dans les années 1540 pour dire, voilà, deux Roms sont tombées. Rome, l'ancienne, évidemment, la papauté, le catholicisme, c'est la vraie religion orthodoxe. Constantinople est tombée aux mains des Turcs, donc il ne reste plus qu'une Rome, la Troisième, Moscou, et surtout, il n'y en aura pas de Quatrième. Donc voilà, les puristes d'un côté avec Nikon, les intégristes, on pourrait dire, de l'autre avec l'archiprêtre Avakoum et quelques autres, s'affrontent. Et à partir de là, il va y avoir vraiment ce qu'on appelle le schisme ou le raskol, la rupture au sein de l'Église russe, qui va employer toutes les mesures disciplinaires possibles pour poursuivre ceux qui refusent les nouvelles corrections, les nouveaux textes. Donc là, effectivement, c'est un moment clé.
Comment cela finit-il ?
Ah ben ça finit très mal, c'est-à-dire qu'il y a arrestation, emprisonnement, exécution de certains meneurs des vieux croyants. Certains aussi s'immolent même par le feu plutôt que de se soumettre. Et donc on a une contre-culture, une dissidence religieuse qui se met en place, qui fait circuler ses propres textes, qui a ses propres saints, ses propres martyrs, et qui va durer jusqu'à nos jours. Il y a encore des vieux croyants en Russie.
Et le pouvoir du patriarche est-il atteint ?
Oui, alors le pouvoir est atteint dans la mesure où Nikon, c'est un peu le sommet et déjà le déclin. Il a pendant quelques années une autorité qu'aucun patriarche peut-être n'a jamais eue. Et puis, évidemment, son pouvoir est excessif. Donc il y a une sorte d'incident entre le patriarche et le tsar. Nikon fait mine de se retirer en espérant qu'on va le rappeler, et finalement il va être déchu de sa charge, mais au terme d'un concile, un véritable concile qui s'est tenu à Moscou en 1666. Et le concile fait deux choses: il déchoit Nikon et désormais ses successeurs seront beaucoup moins puissants, et d'un autre côté il confirme les réformes et donc il condamne les vieux croyants qui sont des raskolniki, des schismatiques. Donc ça sème une sorte de trouble, de désordre dans l'Église russe, dans les consciences. Et à partir de là, on a deux églises, une église officielle, une église ou des églises clandestines.
Et qu'en est-il des derniers patriarches successeurs de Nikon, puisque, on va le voir, le patriarcat va rester, d'abord le siège va rester vacant à partir de 1700, puis évidemment il va être aboli.
Alors les derniers successeurs ont encore un pouvoir important, en particulier une autorité morale. Et eux, ils vont se concentrer sur la condamnation des mœurs modernes. Se raser la barbe, se mettre à boire du thé, à fumer, des choses comme ça, que certains boyards à la mode, entre guillemets, commencent à faire. Et ces critiques, qui sont évidemment, ils sont parfaitement dans leur rôle, puisqu'évidemment ils défendent le mode de vie traditionnel, vont être de plus en plus gênantes pour un jeune souverain comme Pierre le Grand, qui lui veut adopter ses mœurs occidentales, se raser la barbe, il n'en a pas d'ailleurs au début, et s'ouvrir sur l'Occident. Donc évidemment, là, on a l'idée que l'autorité du patriarche pourrait être un frein, un contrepoids au pouvoir, surtout quand il veut s'occidentaliser, se moderniser.
Nous allons arriver maintenant au règne de Pierre le Grand, qui a changé beaucoup de choses dans Russie même, mais qui évidemment a changé beaucoup de choses dans l'Église. Alors comment cela arrive-t-il ? Quelle est la manière dont on aborde ce changement énorme en fait ?
Alors en fait, on a une crise de succession d'abord. C'est que le tsar Alexis, le père de Pierre le Grand, avait une nombreuse famille, mais les enfants du premier mariage, les fils du premier mariage, sont presque tous morts, ou en tout cas sont d'une santé fragile. Alors Fiodor, qui avait succédé à Alexis, meurt rapidement en 1682. Il reste un fils, Ivan, qu'on appellera Ivan V, mais qui est véritablement pas très capable de régner. Donc, une partie de la cour est favorable à mettre sur le trône un jeune fils du second mariage, Pierre Alexeïevitch, qui est encore très jeune. Et il y a là, à ce moment-là, ces révoltes de mousquetaires, ces mouvements où des vieux croyants d'ailleurs essaient de relever la tête, et c'est le patriarcat qui essaie d'arbitrer. Finalement, le patriarcat est plutôt du côté du futur Pierre. Donc, pendant un certain temps, il y a une régence de la demi-sœur de Pierre, Sophie. Tout ça est improvisé, au fond. Et en 1689, à la faveur d'une autre révolution de palais, Pierre et sa famille, disons, il est encore jeune, prennent le pouvoir. Et là, évidemment, il va commencer à vouloir donner une nouvelle orientation au pouvoir en Russie. Alors, ça va se faire progressivement. Et là, à partir de 1700, vraiment, ça va se sentir très nettement pour l'Église.
Donc 1700, le point d'arrêt pour cette première émission sur les tsars et l'Église. Nous sommes en compagnie de Pierre Gonod à l'occasion de la parution de son livre « Histoire de la Russie devant le terrible à Nicolas II, 1547-1917 ». 1700, le point final, parce que c'est à ce moment-là que le dernier patriarche meurt. Et Pierre, donc, va entamer, on peut le dire en quelques mots, il aura une période de vacances du siège.
Voilà, c'est-à-dire qu'il est en guerre avec la Suède, c'est une guerre qui va durer 20 ans, ça c'était tout à fait exact, et il estime, il fait savoir que dans ces circonstances-là, on n'a pas le temps de choisir un autre patriarche. Alors évidemment, c'est un peu un prétexte, et donc la chaire sera vacante, il met comme vicaire un Ukrainien qu'il connaît bien et qui est assez souple, et c'est déjà une nouveauté, et donc pendant ce temps, il prépare des transformations importantes et il met un peu, on pourrait dire, sous tutelle les richesses de l'Église parce qu'il en a besoin pour faire la guerre.
Merci beaucoup Pierre Gonod. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire de la Russie devant le terrible à Nicolas II, chez Talendier. Donc dans 15 jours pour la deuxième partie qui concernera la période synodale de l'Église de Russie. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne-Laure Chanel. Prise de son, Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.